Chapitre 6, où se découvre une conspiration. Rennes est presque entourée par de rivières paresseuses, dont l'eau immobile croupit 9 mois de l'année. C'est la santé des habitants, qui vivent très vieux dans cette putréfaction humide et ne connaissent pas d'autres infirmités que les rhumes de cerveau. Joson chaussa ses sabots en haut du faubourg L'Évêque pour faire une entrée solennelle dans la capitale bretonne. Il me dit « Je veux aller à Saint-Sauveur pour voir la Vierge au bouquet ». C'était du temps de Monsieur Bertrand, comme nous appelions encore le bon connétable au point carré, du Guesclin, la plus grande figure du XIVe siècle. Les Anglais entouraient la ville et creusaient une mine qui, partant des bords de la Vilaine, devait aboutir à la tour Le Bas. Mais le chemin de la mine passait sous l'église Saint-Sauveur. Un matin que Bertrand était à faire ses dévotions, il entendit craquer le bras de la statue de Notre-Dame et vit que sa main se retournait comme si, de son bouquet, elle eût voulu désigner la dalle. Monsieur Bertrand regarda la pierre, qui ne présentait rien de suspect. Mais il avait l'oreille fine, il écouta, il entendit un bruit profond et sourd dans les entrailles de la terre, et il se prosterna, disant « Grâce à Marie ». À la place de la dalle, un trou fut creusé, une contre-mine. Monsieur Bertrand y descendit avec son frère Olivier, le cadet de Penwatt, et 20 hommes d'armes. Et les Anglais de Robert Knolles furent bel et bien enterrés. Après 400 ans, le souvenir de ces choses est aussi vif que si elles étaient d'hier. Joson voulait voir l'église, le bras et le bouquet. Il me quitta en ajoutant « Je vous retrouverai à l'auberge ». J'étais presque aussi neuf que lui. Je ne réfléchis point que Rennes devait renfermer beaucoup d'auberges et je continuai mon chemin par la place des Lys, toute bordée d'hôtels nobles. Au haut de la place, dans un enfoncement, était une petite maison tant soit peu délabrée, au-devant de laquelle pendait une enseigne représentant un cygne tortillant son cou blanc plus long qu'une anguille autour d'une croix noire, avec cette légende. Au cygne de la croix, Pied de Vache donne le boire, le manger et couche à pied comme à cheval sur le placide du pilori. « Est-ce là une bonne auberge ? » demandai-je à un homme qui me semblait être un passant. « La meilleure de la province, » me répondit l'homme, « sans mentir. Et pourquoi a-t-on mis sur le placide du pilori ? C'est que le pilori se dresse devant la porte tout juste et qu'il y a 4 autres signes de croix en la ville de Rennes. Mais ce sont des taudions. « Demain, on expose, et vous pourrez causer avec les patients par votre fenêtre, sans mentir. » En même temps, l'homme prit la bride de Taupin, qu'il fit entrer dans une petite cour aussi aérée que n'importe quel trou à fumier. Par hasard, mon homme se trouvait être le propriétaire de l'auberge, Monsieur Pied de Vache en personne. Je ne pouvais pas mieux tomber. Comme j'allais à l'économie, je ne fus pas très fâché de l'humble apparence que présentait ma chambre. C'était une pièce de moyenne largeur, située sous le toit, meublée d'un grabat vermoulu et dont la fenêtre à lucarne donnait sur la galerie. À Rennes, presque toutes les maisons ont des galeries régnantes qui ne rappellent en rien celles de Florence. Ce sont de longs appendices branlants comme des échafaudages et soutenus par de simples soliveaux tout naïvement piqués dans les murs. Mon hôte me demanda « Venez-vous pour l'affaire, mon joli ?»« Pour la mienne, oui, » répondis-je un peu scandalisé de son indiscrétion. « J'entends, êtes-vous des 12 apôtres ?»« Ah ça !» commençai-je. « À la bonne heure !» interrompit Monsieur Pied-de-Vache. « C'est qu'ils attendent un Judas, voyez-vous bien. Pas d'affront de ma part. Seulement toutes les places sont prises à table ce soir. On vous donnera la soupe ici. » Et ça vous sera bien plus commode, si vous n'en êtes pas. » Il cligna de l'œil en prononçant ces derniers mots. C'était un petit bouleau, rouge de paupières, et dont le nez, piqué au lard, aurait fait un fricandeau tant il avait de matière charnue. Quand il parlait, ce nez monumental allait et venait comme une girouette au vent. J'acceptai volontiers son offre. Je soupai tant bien que mal, et je me mis au lit, après avoir fait jeter une botte de paille dans un coin, pour Joson. « La propreté, me dit Monsieur Pied de Vache en me quittant, voilà ce qui distingue la maison. Vous allez dormir comme un petit saint dans des draps qui n'ont pas encore servi. sans mentir. Quand je me fourrais dans le lit, qui gémissait sous mon poids comme un mourant, ces draps tout blancs me semblèrent grisâtres et même un peu gluants. Mais j'étais là, et le sommeil me prit tout de suite. Je ne saurais dire à quelle heure je m'éveillais. Il faisait nuit noire, et la muraille qui était en face de moi me parut zébrée de raies brillantes. Derrière cette sorte de claire-voie, on causait et on fumait. L'odeur des pipes était si âcre et si épaisse que j'en éprouvais comme un commencement d'asphyxie. Était-ce là ce qui m'avait réveillé? Ou le bruit? Ou les démangeaisons qui me brûlaient dans tout le corps? Rennes, autrefois la capitale des Redones, et célèbre à différents titres, est citée dans les commentaires de César pour la grosseur et l'abondance de ses puces. Sans l'autorité de cet homme illustre, je n'aurais pas osé prononcer un pareil mot devant des dames. Les voyageurs affirment que les puces d'Écosse elles-mêmes, et celles d'Irlande, et aussi celles d'Espagne, renommées dans l'univers entier, pâlissent devant la belle venue des insectes rennais. On en a récolté dont il ne fallait que 24 pour peser une once. Celle qui jouait avec moi cette nuit était grosse comme des sauterelles d'Égypte. Je me levai, renonçant du même coup à une lutte trop inégale, et je pris mon briquet pour avoir de la lumière. Mais comme je m'étais rapproché de la muraille, je commençai à saisir quelques bribes de la conversation de mes voisins. Les premiers mots entendus furent ceux-ci. « Supprimer le Judas ». Cela me fit souvenir de Monsieur Pied-de-Vache et de son bizarre interrogatoire. Je laissai mon briquet, dont le bruit eût trahi ma présence. Avais-je là près de moi les 12 apôtres? Et quel diable de conspiration menaient ces gens-là? J'allai vers la prétendue muraille, qui n'était en réalité qu'une misérable cloison faite avec des bouts de bois. Presque partout, le torchis en paille hachée qui avait anciennement relié les bâtons était tombé, emportant le papier brunâtre et laissant des ouvertures par où l'on aurait pu passer la main. Je n'eus pas besoin de choisir. La première fente venue me donna pleine vue sur une grande chambre, tout aussi délabrée que la mienne, et éclairée par une seule chandelle posée sur la cheminée qui me faisait face. Cette chandelle, à la mèche longue et fumeuse, éclairait à revers une réunion d'hommes en bras de chemise et soubres vestes, dont les visages restaient pour moi dans l'ombre. J'en comptais 11. La plupart étaient coiffés de bonnets de nuit. Ils entouraient une table longue où il y avait des pichets de cidre et des verres. Ils fumaient tous, les coudes sur la table et se parlant dans les yeux. De temps en temps, il y avait un bruit d'argent qu'on remue. Leur prétention était évidemment de causer à voix basse, mais un bon breton qui croit chuchoter donne encore assez de son pour casser les vitres. Je n'apercevais aucun visage. Il faisait l'effet de 11 figures noires, chacune avec un charbon entre les dents. « Et très fléant ?» demanda une voix au moment où je commençais de regarder. On répondit « Il a mis au bas de laine, qui mouille pour lui ?»« Moi ?» Et l'argent tinta. « Et le prêteur du bourg de passé ?» Il mêle, qui mouille, moi, encore de l'argent qui sonna. Mes yeux, habitués à l'obscurité, perçaient à demi le nuage de fumée et distinguaient un tas d'écus au centre de la table. C'est bien mené, fut-il dit. Saint-Pierre est un finaud. Va-t-il venir? Non, mais il sera demain à la fosse. Alors le roi sautera et monsieur l'intendant crèvera comme une bousine, une vessie. Un rire de satisfaction fit le tour de la table, mais une voix chagrine reprit. « Il ne faudrait qu'un Judas pour tout gâter. Sans compter, reprit une autre voix, que le pied de vache ne sait jamais tenir sa langue. » Une troisième voix, importante comme celle d'un président, déclara. « On va s'occuper tout à l'heure du Judas et de pied de vache. C'est ça, finissons nos affaires. » Et puis, nous réglerons le compte de ces deux-là avant d'aller nous coucher. Il paraît, pensais-je, qu'on sait où trouver le Judas. Il n'y avait qu'un livre dans la bibliothèque de mon oncle le Bihan, et il en déchirait les pages pour coiffer sa pipe par-dessus l'amadou. C'était l'histoire du capitaine Mandrin, brigadier des voleurs du roi, par Subiel. Je l'avais lu et relu, malgré ma difficulté à épeler dans le fin, car je ne veux pas me donner pour un bachelier de beaucoup de science. L'idée me vint que j'avais affaire à des brigands.